Bienvenue au pays des mythes et des légendes.
Le feuilleton d'Ulysse, résumé des épisodes de la semaine précédente. Ulysse a été accueilli par Éole, le dieu des vents. Celui-ci lui a remis une outre, enfermant tous les vents mauvais, et il l'a mise sous la protection de Zéphyr, le doux vent qui aide les marins. Ainsi, la flotte d'Ulysse a pu naviguer sans difficulté, et elle se retrouve en vue des côtes d'Ithaque. Mais les marins d'Ulysse ont libéré les vents de l'outre, et les voilà repoussés très loin de l'île d'Ithaque. Tout l'équipage est désespéré devant cette lourde bêtise. Le plus triste de tous est le jeune Elpénor, qu'Ulysse avait pris sous sa protection. Voici à nouveau les bateaux à la dérive. Ils arrivent sur une nouvelle île, celle des géants, les Lestrigons. Seul, le navire d'Ulysse parvient à échapper à ces géants. À son bord, il ne reste plus que Riloc, son second et le plus jeune de tous, Elpénor. Et l'errance reprend à nouveau. Et les voilà encore face à une île inconnue. Il y a si longtemps qu'ils n'ont pas vu un sourire de femme. Les hommes d'Ulysse sont sous le charme. Leurs yeux brillent de désir. « Je m'appelle Circé, » dit leur hôtesse. Elle leur sert des plats délicieux, du pain, du vin, du miel, du fromage. Dehors, Eurylope a l'impression de l'avoir glissé une poudre dans le flacon de vin. Mais il n'en est pas tout à fait certain. Mollement étendus, les hommes se régalent. Une fois qu'ils ont tous bien bu, bien mangé, Circé prend une baguette en bois souple, avec laquelle elle les touche un par un. Sa voix est devenue dure et tranchante. « Vous avez bien mangé, porc que vous êtes! Vous m'avez bien regardé? Eh bien, ça suffit maintenant! Regagnez la porcherie, et vite !» C'est alors que les hommes se voient pousser des oreilles pointues et poilues. Leur nez se transforme en groin. Leur corps devient rose et couvert de poils. Quelques instants plus tard, 22 petits cochons sortent en grognant de la maison. Circé leur crie « Allez, ouste, et contentez-vous de manger des glands maintenant !» Toujours perché sur sa branche, le dieu Hermès ne trouve plus du tout cela drôle. Il regarde ces vilains cochons avec pitié. Tous pleurent. Même transformés en pourceaux, les hommes gardent tout leur esprit et l'horreur de ce qui vient de leur arriver leur tire des larmes. Quel nigaud ! Ils auraient pu se méfier aussi, s'exclame la chouette. Hermès soupire. Athéna, tu n'as aucune pitié pour la faiblesse des hommes pour les femmes. Quelqu'un d'autre a vu la scène. C'est Eurylope, bien sûr. Il traverse les bois en courant. Il arrive au bateau, hors d'haleine. L'équipage, resté avec Ulysse, est terrorisé par ce nouveau coup du sort. « Vite, rembarquons, ne restons pas une minute de plus sur l'île de cette sorcière !» supplie Eurylope. Déjà, les hommes s'apprêtent à larguer les amarres, mais Ulysse se met en colère. « Tu es prêt à abandonner nos compagnons ? Ah, pas question !» Eurylope insiste. « Mais nous ne pourrons pas échapper au maléfice de cette femme. Il faut fuir. »« Reste ici si tu as trop peur d'y retourner, » répond Ulysse. « Mais attendez-moi, j'irai seul et je ramènerai nos amis. » Et il s'enfonce immédiatement dans la forêt. Plus il avance, plus Ulysse se demande comment il pourra obtenir de la magicienne qu'elle rende figure humaine à ses hommes. Face à de tels pouvoirs, « Il me faut l'aide des dieux, » se dit-il. C'est alors que son pied trébuche sur une grosse racine. Il tombe, les mains en avant. Ses paumes écorchées saignent et son sang coule sur une fleur blanche comme le lait, une fleur qu'Ulysse n'a jamais rencontrée de sa vie. « Au lieu de la souiller de ton sang, » dit une voix dans son dos, « cueille cette plante, elle s'appelle Molly. » C'est par elle que tu trouveras ta survie. » Ulysse sursaute. Qui l'interpelle ainsi dans ce bois désert ? Un jeune homme au casque ailé se tient derrière lui. Ulysse reconnaît aussitôt Hermès, le dieu messager. « Ce que je te dis à propos de cette plante n'est pas une plaisanterie, » insiste Hermès. « J'ai vu tes hommes transformés en pourceaux, et ça non plus, ce n'est pas une plaisanterie. » Un dieu de l'Olympe. Ulysse reprend espoir. Il cueille aussitôt la fleur blanche et attend. Circé est une magicienne, poursuit le petit dieu. Ce qu'un maléfice peut faire, un autre maléfice peut le défaire. Commence par manger cette plante. Ainsi, lorsque Circé te touchera avec sa baguette magique, tu ne seras pas transformé en porc. C'est un antidote à ses poisons. Oh, mille merci, oh dieu messager, fils de Zeus, bredouille Ulysse. Mais après, comment faire pour sauver mes compagnons? Amusé de voir Ulysse aussi intimidé, Hermès glisse son bras sous celui du roi d'Ithaque. Et il continue à lui parler à l'oreille. Il lui chuchote des conseils pour vaincre la magicienne. Ulysse reprend sa route d'un bon pas, sans plus douter de l'issue heureuse de son aventure. Lorsqu'il arrive à l'entrée de la clairière, les lions et les loups le saluent aussi gentiment qu'ils avaient salué ses compagnons, en se frottant contre ses jambes. Ulysse réprime un frisson. Ces bêtes fauves aussi dociles sont très certainement des humains, métamorphosés par la magicienne. C'est alors que Circé apparaît. Elle porte une robe bleu azur, brodée de fils d'or. Des fils d'or serpentent aussi dans ses cheveux. Ulysse est ébloui. Il lit dans les yeux en amande de la magicienne, qu'elle le trouve plutôt à son goût. « Je comprends mieux mes pauvres compagnons, » se dit Ulysse. « Comment résister à un tel charme ?» Circé lui sert la même nourriture, fine et savoureuse. Ulysse s'en régale. Il prend bien soin de ne pas porter la coupe de vin à ses lèvres. Il sait, grâce à Hermès, que le vin contient du poison. Il sent poindre l'impatience de Circé sous ses sourires. « Tu es pressée de me transformer en cochon, maudite sorcière, mais tu vas être drôlement surprise, » pense Ulysse. Sur une branche, dehors, une chouette dit. « Tu es sûr de toi, Hermès, mon frère. Tu es sûr que tu peux empêcher le poison d'agir grâce à cette fleur de molly. » Le dieu regarde sa sœur en faisant une moue. Ma chère Athéna, je suis presque sûre, presque. » Jamais aucun homme n'a résisté au sortilège de Circé. Aussi, quand elle touche de sa baguette magique l'épaule d'Ulysse en lui disant durement « Va rejoindre tes compagnons dans la porcherie !» Sa surprise est immense. Son visiteur continue à boire tranquillement sa coupe de vin en la regardant d'un œil amusé. Le visage de Circé pâlit. Elle saisit une autre baguette et recommence à lui frapper l'épaule, mais aucune métamorphose ne se produit. Ulysse reste un homme. Il se lève d'un bond, dégaine son épée et la pose sur la gorge de la magicienne. « Hypocrite que tu es !» s'exclame-t-il. « Quelle belle hospitalité que la tienne en vérité ! Mais tu ne me transformeras pas en cochon. Et d'ailleurs, tu vas mourir de cette trahison. » La pointe aiguisée de la lame commence à égratigner la peau de la sorcière. Quelques gouttes de sang perlent à sa gorge. La jeune femme supplie Ulysse de l'épargner. D'un geste, elle désigne sa belle demeure, son riche mobilier, les plats remplis de nourriture, et dit d'une voix tremblante. « Laisse-moi la vie sauve, je t'en prie, et tout cela t'appartiendra. » Puis, redressant la tête entre ses larmes, elle ajoute « Et moi aussi, je t'appartiens désormais. » Ulysse est ému, plus qu'il ne le voudrait. Il abaisse son épée. Les yeux verts de la sorcière aux plantes magiques le fixent intensément. Il se sent désiré, et son orgueil d'homme en est flatté. À cet instant, Circé devine qu'elle vient de renverser la situation. Elle se relève, s'approche d'Ulysse et lui prend la main. En un sursaut, Ulysse se souvient des conseils d'Hermès. Il se dégage. Comment veux-tu que j'accepte les caresses d'une main qui a métamorphosé mes amis en pourceaux? Redonne-leur leur apparence humaine et nous verrons. Sans répondre, Circé se dirige vers le fond de la pièce où des pots pleins de feuilles, d'herbes séchées, de liquides de couleurs variées sont entreposés sur une étagère. Elle prend un pot dans lequel marine une mixture verdâtre et sort. Elle se dirige vers la porcherie. Elle libère les 22 cochons. En reconnaissant Ulysse, ils se pressent tous autour de lui en gémissant. Ulysse s'en a les larmes aux yeux. Circé s'approche alors d'un premier cochon qui s'enfuit en courant. « Reviens, je vais te redonner quelque chose qui te fera du bien » crie-t-elle, peine perdue. Elle se tourne vers un autre. Il détale de toutes ses pattes et tous se méfient désormais. Alors Ulysse leur crie « N'ayez crainte, revenez, Circé ne vous fera pas de mal cette fois. » Un seul, le plus mince, le plus fluet des cochons, se risque à avancer vers la magicienne. Aussitôt, elle lui frotte le dos avec son baume en marmonnant quelques paroles mystérieuses. Et voilà que celui-ci reprend sa forme humaine. C'est le jeune Elpénor. Il se précipite dans les bras d'Ulysse, qui le serre sur sa poitrine. En un instant, c'est la cohue dans la clairière. Tous les cochons entourent Circé en grognant pour recevoir le baume et la formule magique qui annule la métamorphose. Circé rit de bon cœur devant cette bousculade. Vite, elle rend à chacun sa forme humaine. Et eux, fait Ulysse en désignant les lions et les loups. Circé reprend un air sérieux. Tu m'as demandé pour tes 22 hommes seulement. Eux, ils sont ici depuis bien trop longtemps. Les compagnons d'Ulysse s'en foutent de joie. Quelques-uns partent aussitôt chercher les autres restés à bord, et un immense banquet les réunit tous dans la clairière. Viande, légumes, céréales, miel et fruits, du vin à volonté. Un vin qui est juste bon pour se régaler, dit Circé, en les servant les uns après les autres. Elle les invite ensuite à s'allonger à l'ombre. Leur peau, plissée par le sel et le vent de la mer, respire enfin. Ulysse est heureux de ce havre de paix qu'il offre à ses hommes. Son corps est fatigué par toutes ces années de guerre et de mer. Il aspire lui aussi à un peu de repos. « Je suis guérisseuse, tu sais, » lui confie Circé en s'approchant. « Avec mes plantes, je peux soigner les blessures de ton âme et celles de ton corps. » Elle lui prend à nouveau la main, et cette fois-ci, il la lui abandonne volontiers. Elle l'entraîne à quelques centaines de mètres dans les bois derrière la maison. Bientôt, ils arrivent dans une autre clairière, toute petite celle-là. Un puits s'y trouve. Circé se penche pour recueillir dans le creux de ses mains un peu d'eau fraîche qu'elle tend à Ulysse. Il la boit avec délice. Quelques gouttes d'eau s'accrochent à sa barbe. Qu'y a-t-il au fond de ce puits ? Toi, magnifique et glorieux héros, murmure la magicienne en l'attirant sur un lit de mousse et de feuilles. Athéna, juchée sur un chêne au-dessus d'eux, soupire. Aussi prévisible que décevant. Hermès lui répond. Ah, c'est juste un homme qui a trop besoin d'être flatté et admiré. Les hommes sont souvent vaniteux, tu le sais bien. Athéna bat des ailes. Et certains dieux aussi, n'est-ce pas? Tu lui as conseillé de la menacer de son épée pour obtenir qu'elle annule la métamorphose de ses compagnons. Mais tu ne lui as pas conseillé de se méfier des autres sortilèges. Hermès hausse les épaules sans rien dire. Athéna soupire de nouveau. C'est une fausse guérisseuse, tu le sais bien. Ce puits est un piège. Ulysse pourrait bien y perdre son âme et ne jamais en ressortir. Sur Ithaque, la terre est sèche et caillouteuse. Sur l'île de Circé, chaque pas s'enfonce dans une terre grasse et fertile. Sur l'île d'Ulysse, il faut se battre pour faire pousser de quoi manger et nourrir les bêtes. Chaque grappe de raisin, chaque olive récoltée est une dure victoire. Chez la magicienne, Les forêts verdoyantes offrent gibier et fruits en abondance. Tout est facile, tout est à portée de main. Pas étonnant dans ces conditions qu'Ulysse et ses marins s'attardent presque un an chez Circé. Mais la vie facile, les attentions de la magicienne ne rendent pas Ulysse tout à fait heureux, car un mal secret le ronge et grandit en lui chaque jour un peu plus. La nuit, alors qu'il dort aux côtés de Circé, un rêve vient le hanter. Et toutes les nuits, le même rêve. Le beau visage de sa femme, Pénélope, surgit devant lui. Pas un son ne sort de ses lèvres rouges. Elle le regarde, simplement, en silence. Une vague de bonheur immense envahit alors Ulysse endormi, comme si l'exacte moitié de lui-même se trouvait en face de lui. Il tend les bras, veut lui toucher le visage, mais Pénélope s'éloigne. Son sourire, puis son visage, s'efface peu à peu, jusqu'à disparaître. Et cette dissolution est une douleur si aiguë qu'elle réveille brutalement Ulysse, en sueur, les yeux pleins de larmes. Le jour, les cajoleries de la fausse guérisseuse lui font tourner la tête et oublier son rêve. Elle lui masse langoureusement les pieds, elle lui prodigue flatteries et propos charmeurs. Et Ulysse s'en oublie lui-même. Circé est plus redoutable que les plantes des lotophages. Ulysse se perd. Mais chaque nuit, l'appel muet de Pénélope se fait de plus en plus fort. Jusqu'au jour où Ulysse comprend qu'il fait fausse route. Il se décide à supplier Circé. Magicienne aux yeux verts, je ne peux plus vivre loin de celle que j'aime, loin de mon île. Je ne suis pas fait pour rester mollement dans ton lit, pour que tu me nourrisses, que tu m'offres l'eau de ton puits. Je suis le roi d'Ithaque, je suis l'époux de Pénélope, et je suis lié pour l'éternité à ma terre et à ma femme. Il faut que tu me laisses regagner ma place, redevenir moi-même. Circé n'essaye pas de retenir Ulysse. Elle sait depuis longtemps que ses sortilèges sont inefficaces pour empêcher Ulysse d'être fidèle à ses origines et à son amour de toujours. Mais sa voix se fait soudain plus grave lorsqu'elle lui répond. « Je peux t'aider, Ulysse. Je m'engage même à le faire, mais je dois t'annoncer quelque chose. Tu ne rentreras pas chez toi sans être d'abord descendu aux enfers. » Au royaume d'Hadès séjourne le devin Tirésias. Tu te souviens de ce célèbre devin aveugle, à la longue barbe blanche, qui vivait à Thèbes autrefois. Il est mort maintenant. Mais il a gardé tous ses pouvoirs de divination. Les dieux m'ont prévenu que tu ne pourrais rentrer chez toi qu'après avoir eu une conversation avec lui. Et c'est lui, et lui seul, qui saura t'indiquer le chemin du retour. Le royaume des enfers. Ulysse est stupéfait. Mais aucun mortel descendu aux enfers n'en est jamais revenu vivant, à l'exception de Thésée, le héros qui a vaincu le Minotaure, et d'Orphée, parti rechercher son Eurydice. Tu es bien certaine de ce que tu m'annonces ? Elle hoche la tête en silence. Alors Ulysse se lève, l'air un peu perdu. Il regarde autour de lui comme s'il cherchait de l'aide. Il se sent profondément seul, soudain. Ses pas le mènent sur le toit en terrasse de la grande maison où ses hommes sont endormis, la plupart abrutis par le vin qu'ils ne cessent de boire depuis leur arrivée ici. Le spectacle de ses compagnons ronflant sur la terrasse l'agace. « Allez, secouez-vous, bande de fainéants, nous embarquons. Prenez vos affaires. » Réveillés en sursaut, les marins se lèvent en titubant. Mais ils ne protestent pas, car la plupart d'entre eux trouvent le temps long à ne rien faire. Ils se languissent eux aussi de leur pays, de leur famille. Ulysse redescend 4 à 4 l'escalier de la maison pour aller faire ses adieux à Circé lorsqu'un terrible accident se produit. Parmi les compagnons d'Ulysse se trouve le jeune Elpénor. Encore mal réveillé, l'esprit embrumé par les vapeurs d'alcool, il croit se diriger vers l'escalier et prend la direction inverse. Quelle dramatique erreur! Il tombe dans le vide, du haut du toit. Ulysse entend son cri, il a juste le temps de voir son corps s'écraser sur le sol. Elpénor s'est rompu le cou. Ulysse pleure, comme un enfant, devant le corps de l'adolescent. C'était le plus faible d'entre nous, mais le plus fidèle. Quand cela s'arrêtera-t-il? Et c'est un homme sans joie qui s'embarque peu après sur son navire. Il se demande avec appréhension comment lui, simple guerrier, va pouvoir trouver le chemin des enfers. Ses marins ont appris leur nouvelle destination. Ils sont terrorisés. « Je ne peux compter sur personne, » murmure Ulysse. Mais quelqu'un dans son dos lui tapote l'épaule et lui répond « Je suis là, moi !» Ulysse se retourne et il a la joie de voir le petit dieu Hermès qui s'est glissé sur son bateau rouge. Ah, quel soulagement! Car le dieu messager est aussi celui qui accompagne les âmes des morts chez Hadès. Il ne sera pas inutile dans cette dangereuse descente aux enfers.